Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne, avec Marie Binet.
Chers auditeurs, bonjour. Certains d'entre vous me reconnaîtront. Je suis Marie Binet, conseillère conjugale et sexologue, psychopraticienne et chroniqueuse sur Radio Présence. J'ai la joie de vous retrouver ce matin dans une émission spéciale de Vivante Église. Depuis presque 2 ans, nos familles sont face à des situations nouvelles dues à la crise sanitaire. Non préparée, chaque personne a dû faire preuve d'adaptation dans sa vie privée et professionnelle. Les relations intraconjugales, familiales et amicales ont été aussi déstabilisées ou remodelées. Une enquête de septembre 2021 réalisée par l'Institut Montaigne auprès de 8000 jeunes montre que 51% des 15-24 ans ont eu un impact négatif sur leur morale de cette crise. Quelles incidences cette crise a-t-elle eu et pouvons-nous constater sur les couples et les familles ? Force est de reconnaître que cette période occupée par le virus Covid-19 favorise les conflits ou les a réveillés. Le virus de la division s'est infiltré, comment en guérir ? J'ai le plaisir de partager autour de ce plateau avec Sébastien Dex, psychopraticien et sociologue. Bonjour Sébastien.
Bonjour Marie.
Et avec Fabien Jamois, naturopathe. Bonjour Fabien.
Bonjour Marie.
Nous allons ensemble discuter de notre thème à partir de nos accompagnements. C'est donc une vision partielle qui se veut bienveillante, sans jugement ni polémique, sur le vécu de cette période. Alors nous allons d'abord en première partie faire un état des lieux de ce que nous constatons, puisque ça va faire pratiquement 2 ans que nous vivons cette situation sanitaire, avec un nombre important de restrictions, mais en même temps d'adaptation. Et comme je disais, on a dû remodeler un peu notre vécu et notre savoir-vivre ensemble aussi, et notamment au sein des familles. Sébastien, d'un point de vue sociologique, qu'est-ce que vous pourriez nous dire des constatations ?
Alors, la sociologie, en fait, depuis sa naissance, on va dire depuis la fin du 19e siècle, s'intéresse à des grands thèmes. Et ce qui est vraiment questionnant ou troublant, c'est de voir comment cette période que nous venons de vivre, que nous vivons encore, finalement reflète les mêmes questionnements sur des thèmes comme le lien social, la solidarité, la valeur travail, le sens de l'éducation, qu'est-ce qui fait famille, comment se désorganise ou s'organise une société. Et là, vraiment, cette dernière expérience, on va dire, sociologique, nous permet de voir que tous ces domaines ont été profondément contestés, remaniés par cette crise. Alors, on ne sait pas ce que ça donnera à terme, mais en tout cas, ce que l'on peut quand même observer, pour reprendre le thème de l'émission, c'est une certaine augmentation de la division sociale. Dans la société elle-même, les groupes se sont beaucoup divisés, on va dire, et en termes de conflits, d'exclusion, de rupture, mais au sein même des groupes sociaux tels que la famille ou les groupes professionnels ou les groupes liés à l'éducation, il y a aussi des divisions. Et donc vraiment ces facteurs de rupture et de dégradation du lien social. Alors, par exemple, pour donner quelques exemples, on peut dire qu'au sein de la sphère familiale, par exemple, il y a eu un chamboulement de par le confinement, le fait que les familles se retrouvent de nouveau réunies sous un même toit pendant quasiment H24, comme on dit, ça a de nouveau mis en question les rapports entre hommes et femmes dans le couple, la répartition des tâches, l'organisation aussi de l'espace au sein des habitats entre les activités familiales et les activités professionnelles. Et malheureusement, on pourrait dire sur le plan sociologique que les femmes sont encore un peu les perdantes de cette crise. Parce que cette crise, finalement, on ne pourrait pas dire qu'elle a créé des inégalités, mais elle les a renforcées ou révélées, en fait. Et donc, les femmes se sont retrouvées avec une charge mentale supplémentaire de par le fait de rester tout le temps au domicile. Et donc, la plupart du temps, c'est elles qui gèrent les activités domestique, cuisine, ménage, les activités auprès des enfants. Donc là, en plus, il y avait en rajouté l'activité scolaire, même si les papas ont un peu pu grignoter ce temps quand même pour s'occuper un peu de leurs enfants. Donc ça a complètement remodelé ça. Les femmes se sont un peu retirées aussi de la vie professionnelle, justement pour pouvoir prendre en charge ce surplus d'activités au sein de la famille. Peut-être un petit point positif quand même, c'est que apparemment les pères ont pu quand même un peu plus augmenter leur temps de présence à la maison et auprès de leurs enfants. Mais pas tellement, par contre, au niveau de la répartition des tâches ménagères. Par exemple, ça, c'est dans le domaine familial. Après, on pourrait dire que dans le domaine professionnel, le télétravail, par exemple, l'avènement de la visioconférence, par exemple, a tout redistribué aussi et participe aussi à l'affaiblissement du lien social. Et on se rend compte que pour être quelqu'un d'épanoui au travail, c'est pas juste de faire sa tâche. C'est aussi tous les moments de convivialité, d'échange, de partage, les 5 minutes à la machine à café, le fait de se dire bonjour le matin. Et là, ça a quand même créé une souffrance au travail, finalement, supplémentaire de se retrouver isolé à la maison. Voilà, par exemple.
Merci Sébastien. Fabien, est-ce que sur la santé, qu'est-ce que vous avez pu constater ?
Sur la santé, écoutez, on pourrait partir pour vous répondre de la définition que donne l'OMS de la santé, c'est-à-dire que l'OMS considère la santé comme un état de complet bien-être physique, mental et social qui ne se réduit pas à la seule absence de pathologie. C'est très important. Moi, je ne suis pas médecin, je suis naturopathe, donc je ne peux pas me prononcer sur l'aspect médical, je ne fais pas de diagnostic, je ne fais pas d'ordonnance, j'accompagne des gens dans leur santé, vers un cheminement un petit peu différent, un peu plus naturel. Mais je suis, en tant que praticien, effectivement confronté à beaucoup de choses, beaucoup de mal-être, beaucoup de solitude. Alors il y a différentes phases, hein, c'est-à-dire il y a eu les confinements, il y a le port du masque, il y a les restrictions, il y a toutes les contraintes, les divisions dont vous avez parlé. Mais globalement, voilà, l'état de bien-être est vraiment très, très, très altéré. Ça se manifeste par plein de choses, c'est-à-dire chez les jeunes, une très grande difficulté à se projeter dans l'avenir. Je vois dans les gens que j'accompagne, c'est un rajeunissement des gens de beaucoup plus en plus jeunes que je ne voyais pas forcément avant. Cette difficulté de se projeter, ce sentiment de solitude, d'à quoi bon aussi, et des mots qui sont à la fois sociaux, mentaux, mais qui se répercutent sur le corps. Donc, qui se traduisent par des symptômes, des compensations aussi. C'est-à-dire, face à ce manque de sens, à cette situation de solitude, de difficulté de projection, il y a beaucoup d'addictions qui ont apparu chez les jeunes, en partie, mais pas simplement. Beaucoup d'addictions à l'alimentation, donc beaucoup de troubles alimentaires, des dépendances au sucre très fortes. Alors, je parle du sucre, mais il y a aussi la drogue, l'alcool, le tabac, enfin voilà, tout ce qui peut être considéré comme addictif. Les symptômes sont très très larges, donc voilà, on pourrait continuer à l'infini, mais c'est beaucoup de troubles que je ne rencontrais pas chez des gens si jeunes. Voilà. J'ai l'impression que c'est vraiment les jeunes qui ont pris très très cher dans ces 2 années.
Alors c'est ce que les familles ont constaté, les parents se sont retrouvés un peu en difficulté pour accompagner leurs jeunes, les enfants qui aussi ont beaucoup vécu en tout cas des situations compliquées d'absence de l'école, de retour à l'école, d'éloignement de leurs professeurs ou de leurs amis, et aussi des jeunes en effet, des grands ados ou des jeunes adultes qui sont revenus au domicile alors qu'ils en avaient perdu l'habitude, et ça a remodelé des relations, et ce que j'ai pu constater, c'est qu'à un moment donné, ça a pu faire éclater des conflits intrafamiliaux, même avec des remontées d'enfance, c'est-à-dire que les adolescents ou les jeunes adultes revenant chez eux rejouaient des relations comme quand ils étaient petits, ce qui a beaucoup déstabilisé les parents, qui eux-mêmes étaient en train d'essayer de s'adapter à leur télétravail, et à aussi en couple. Et comme vous disiez, Sébastien, c'est de redéfinir des espaces et des temps. Et ce qui a été très surprenant, c'est d'entendre régulièrement les couples dans mon cabinet qui, pourtant, avec le couvre-feu ou les différents confinements, se retrouvaient souvent, disaient « mais on n'a pas le temps de se retrouver ensemble ». Ce qui était très paradoxal. Et donc finalement, même en étant 24 heures sur 24 et toute la semaine dans le même lieu, il y avait une difficulté à prendre du temps, à trouver un espace ensemble, avec une fuite quelquefois davantage dans les réseaux sociaux ou dans... alors ce qui a été aussi un avantage, hein, heureusement qu'il y avait certains réseaux sociaux pour rester en lien avec de la famille éloignée. Mais en même temps, quelquefois, il y avait une fuite dans ces réseaux sociaux. Ce que j'ai pu constater, et ce qui a été très surprenant, c'est que j'ai reçu beaucoup de couples avec une résurgence d'infidélité. C'est-à-dire que les couples n'ont pas choisi forcément de se séparer, mais le premier confinement a mis en lumière pour beaucoup des difficultés qui étaient niées ou mises dans une boîte. Et là, ils n'ont pu que qu'y faire face. De grandes difficultés dans la sexualité, qui ont été plus vécues par les hommes et des difficultés dans les relations qui ont été plus vécues par les femmes. En tout cas, il y a eu... alors ça surprend parce qu'on se dit comment dans un confinement ou avec le fait de devoir rentrer tôt chez soi, il y a pu avoir autant d'infidélité. Mais bon, quand on veut, on trouve toujours les moyens. Les sites de rencontres se sont adaptés avec des lives Zoom. Il y a eu un constat d'isolement, donc chez des jeunes, mais aussi chez des adultes célibataires. Et puis des personnes âgées, des couples aussi même de grands-parents qui ont très mal vécu de ne pas voir leurs petits-enfants. Mmh. Il y a eu une relation intergénérationnelle qui a évolué, avec notamment des disputes intrafamiliales qui font que une génération de 35-50 ans a quelquefois s'est éloignée de la génération des 60-80 ans parce que ça a généré des conflits autour de est-ce qu'on se voit en famille ou pas, et dernièrement encore à Noël. Ça a été vraiment une grande contrariété. Et ce qui a été constaté aussi, c'est une contrariété dans la pratique spirituelle. Il y a eu des divisions au sein de l'Église autour du port du masque, autour de l'entrée dans les églises, des retrouvailles en famille autour des sacrements. Et la pratique spirituelle a été contrariée puisqu'il y a eu beaucoup de retraites qui ont été fermées, des monastères qui n'ont pas toujours reçu. Et donc des personnes qui se sont senties aussi déboussolées, perdues entre toutes ces relations aussi bien intra-relationnelles, c'est-à-dire à soi-même, aux autres et même à Dieu, qui ont été chamboulés. Sébastien ?
Oui, pour rebondir sur ce que tu dis, Marie, c'est que en sociologie, on parle de fait social total. C'est-à-dire que tous les domaines, finalement, tels que le juridique, le spirituel, le politique, le travail, l'éducation, enfin, les grands domaines sociaux, finalement, qui nous constituent en tant que société, sont touchés par le phénomène. Et donc, là, quelque part, on observe que cette période Covid peut représenter justement un fait social total. Et peut-être pour faire le lien avec l'individu, c'est aussi un fait qui touche toutes les dimensions de l'être humain, finalement. Corporel, émotionnel, psychologique, social et spirituel. Et notamment, je pense, pour les enfants et les adolescents, c'est quand même une période charnière pour eux dans la construction de leur personnalité. Et il y a quand même une inquiétude présente là dans le domaine, on va dire, de la santé psychologique et ou mentale, c'est de voir l'impact que va avoir cette période sur leur développement cognitif, affectif, relationnel, parce que ça fait quand même 2 ans qu'ils vivent des conditions quand même très particulières et plutôt frustrantes, quoi.
Et de distanciation, et on constate déjà quand même beaucoup de suicides ou de tentatives de suicide chez des adolescents et des jeunes adultes, hein, donc ça a été une recrudescence de cette manifestation-là. Des enfants qui sont en difficulté dans leurs apprentissages, qui sont aussi vraiment très, très nettement notés. Et d'un point de vue des adultes, beaucoup de reconversions professionnelles. Tout à l'heure, Fabien, vous questionniez la question du sens. Et je pense que les adultes, ça leur a permis de se re-questionner sur le sens de leur vie professionnelle, de la cohérence ou l'équilibre entre leur vie privée, leur vie relationnelle et leur vie professionnelle.
Tout à fait. Enfin, moi, il y a eu... Enfin, là, c'est pour des gens plus âgés, effectivement. Je ne parle pas du public enfant-adolescent, mais des décisions qui ont été accélérées. Voilà, ça peut être quitter la ville, changer d'activité. En général, c'est toujours dans le même mouvement. C'est quitter une activité assez rémunératrice, sécurisante, salariée, vers quelque chose de plus expérimental. Il y a eu beaucoup de mouvements vers des zones rurales, vers des activités artisanales. Donc effectivement, un effet déclencheur, accélérateur de choses qui étaient déjà là, d'envie. Et si on ne le fait pas maintenant, quand est-ce qu'on le fera? Donc c'est très marqué socialement. Enfin, sociologiquement, on a vraiment constaté ça.
Cette question du sens, Sébastien, c'est aussi quelque chose qui a été questionné dans vos accompagnements.
Oui, tout à fait. Notamment chez les adolescents. Ce qui me marque, c'est que... bien qu'ils y soient pour pas grand-chose, finalement, notamment dans leur modification du parcours scolaire, ils le vivent comme une disqualification, finalement, d'eux-mêmes, comme si leur parcours... ils avaient intégré le fait que leur parcours scolaire était bradé, entre guillemets, ou qu'il allait être moins valorisé, qu'on allait les stigmatiser comme... les bacheliers Covid, les brevets Covid. Et justement, comme dit Fabien, ça joue beaucoup sur leur capacité à se projeter. Et moi, un de mes thèmes chers, c'est les angoisses existentielles, c'est-à-dire notamment la question du sens et comment on peut y répondre, chacun de nous. Et ces jeunes adolescents, peut-être de plus en plus jeunes, justement, avant, c'était peut-être troisième seconde, c'est-à-dire 14, 15, 16 ans, on va dire. Et maintenant, c'est plutôt 12 ans où ils s'interrogent vraiment parce qu'ils ont vécu, j'allais dire, peut-être un phénomène étrange dans leur existence. Ils ont du mal à y donner du sens et ils ont du mal, donc, quelque part, à projeter un sens à leur vie aussi par la suite.
Alors, si on constate que, du coup, pour les adolescents, c'est compliqué de se projeter, comment les adultes qui ont eux-mêmes du mal à se projeter peuvent les accompagner? Et on a des, enfin, j'ai de plus en plus d'adultes dans mon cabinet qui, de la génération comme ça, des années, qui sont nés dans les années 70-80, qui, en fait, auraient envie de prendre leur retraite le plus tôt possible, qui n'ont plus envie de travailler. Donc, comment stimuler, du coup, la jeune génération, donner du sens quand eux-mêmes sont un peu dégoûtés, désespérés, découragés et aspirent à une, je dirais, à une tranquillité parce que cette période a réveillé beaucoup trop de tourments, en fait. Il y a une tempête qui est passée et il y a un désir de pacification derrière qui passe par un allègement de la vie professionnelle et en même temps positivement par un retour, je dirais, à l'essentiel, c'est-à-dire une vie relationnelle plus stable.
Moi, je crois qu'on peut faire appel à la notion de vulnérabilité. Et je crois que malheureusement, souvent, en tant que parents, nous, je vais dire nous, n'osons pas montrer nos doutes ou nos questionnements ou nos vulnérabilités à nos jeunes. Alors que je crois que ce n'est peut-être pas forcément de réponses toutes faites, très concrètes, dont ils ont besoin pour être accompagnés dans ces moments de doute. Mais par contre, je pense que le témoignage d'égal à égal, un petit peu d'humain à humain entre parents et jeunes, sur la vulnérabilité notamment, peut même peut-être favoriser de belles rencontres. En tout cas, moi, dans mes accompagnements, j'ai pu être témoin de plusieurs de ces moments intrafamiliaux aussi, où il y a une révélation finalement des vulnérabilités et donc un niveau de rencontre plus profond qui se passe.
Alors, ça irait jusqu'à... dire aux enfants, enfin mettre en lumière face aux enfants les divisions intrafamiliales qui sont dues à cette période.
Alors peut-être pas les, enfin, ne pas accentuer sur la division, mais en tout cas accentuer sur le ressenti de chacun, et parce que c'est un apprentissage de dire son ressenti et d'accepter le ressenti de l'autre. Et justement, ça permettrait même de lutter contre la division. C'est-à-dire que vivre ensemble, ça ne veut pas dire être tous d'accord sur les mêmes sujets. C'est comment avoir du respect, de la bienveillance, une impartialité quelque part aussi sur des avis différents, voire des fois opposés aux miens.
Est-ce que cette expression, Fabien, favoriserait un mieux-être?
Certainement. Enfin, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Je constate dans mon cabinet, même si les gens viennent me voir à la base pour une problématique physique, migraine, tendinite, maux de ventre, Très rapidement, on évolue à travers l'écoute vers d'autres domaines, c'est-à-dire le domaine social, la question de la relation, le domaine social et...
Et des émotions, je suppose.
Et l'expression des émotions qui peuvent prendre une forme aussi symptomatique, une forme douloureuse particulière. Mais cette question du sens, cette question de la fragilité, de la vulnérabilité, elle est vraiment au cœur... Elle est au cœur du soin, de la relation d'aide. Parler, dire la fragilité, la reconnaître, c'est très efficace.
Et c'est déjà en partie la soulager finalement.
Tout à fait.
Hein, c'est regarder en face ce qui arrive et permettre de cheminer pour trouver comment la soulager, la guérir en fait.
Oui.
C'est un peu ça. Voilà. Et alors quelque part, avant de faire une pause, je terminerai cette séquence en disant que en même temps, il y a une source de division et en même temps, pour beaucoup, il y a une source justement de soutien intrafamilial ou amical avec des relations qui se sont resserrées, qui se sont confortées. On va faire une pause en écoutant Grand Corps Malade, le sens de la famille.
À imaginer la vie sans mes proches. Quand je dis un peu de mal, en fait, je l'imagine pas du tout. Ils sont mes repères, mes bases, mes compliments, mes reproches. Sans eux, je suis pas entière. Je les veux pas loin, souvent, partout. Avec eux, on n'a pas peur du silence, on n'a rien à se prouver. Une sorte d'équipe sans remplaçant, sans capitaine. Dans cette équipe, tu ris, tu râles, tu progresses, tu veux rester. Très loin du star system, tu restes tard, si t'aimes. Si jamais je devais tout perdre, si la roue faisait demi-tour, je n'aurais besoin que de leur présence pour que la vie reste facile. Peu importe ce qu'il y a sur la table, ce qui compte, c'est qui il y a autour. Ce que je ressens, je veux leur dire. Je crois que j'ai le sens de la famille.
J'ai un peu de mal à imaginer la vie sans mes proches. Quand je dis un peu de mal, en fait, je l'imagine pas du tout. C'est avec eux que j'avance, de la sérénité plein les poches. S'ils ne le partagent pas avec moi, aucun bonheur ne vaut le coup. Et à l'inverse, il n'y a rien qui ne me fasse plus de peine qu'imaginer leur visage au moment où ils ont appris que mes 20 ans seraient cruels, que mon avenir s'annonçait terne. Le drame, ça se partage, mais ça n'apaise pas l'esprit. Ils m'ont transmis tout ce que j'aimerais transmettre à mon tour. C'est grâce à eux, si je suis en paix, que je pars pas en vrille. Leur humanité sans trompette, leur bienveillance sans détour. Ce que je leur dois, je veux leur dire. Je crois que j'ai le sens de la famille.
Évidemment, quand t'es maman, ton cœur explose et pour toujours. On te confie le rôle ultime, celui qui te change viscéralement. Tu savais pas que c'était possible de générer autant d'amour. Je trouve pas de mots assez forts, c'est tellement, tellement.
Et évidemment, quand t'es daron, toutes les cartes sont redistribuées. Ils sont dans ma tête, dans mon ventre, dans mon sang chaque seconde. Je n'ai plus qu'eux comme certitude, il va falloir m'habituer. J'ai découvert les liens visibles et les plus solides du monde.
Les enfants, c'est des galères qu'on pouvait même pas concevoir.
Ils nous rendent complètement ouf, mais en un sourire, on vacille.
T'as qu'une envie, c'est qu'ils s'endorment, et dès qu'ils dorment, tu veux les voir.
Eh ouais, on est devenus ceux qu'on chambrait. Je crois qu'on a le sens de la famille. Et le sens de la famille, c'est aussi le sens de l'amitié. Je peux te présenter des frères et sœurs qui n'ont pas le même sang. Frères d'espoir, sœurs de cœur, frères de galère ou de quartier. Faire des projets d'adultes dans des cerveaux d'adolescents.
La famille, c'est aussi ceux qui sont devenus essentiels. Ceux qui te connaissent, te révèlent, te soutiennent et te protègent. Ceux qui te parlent la bouche fermée, parce que le cœur s'en mêle. Si tu veux signer avec moi, faut signer avec tout le cortège.
Porte-toi bien, ma chérie. À bientôt, Charles.
Ça va, s'il te plaît.
Au revoir. Merci pour le cadeau.
Tu vas manger. Vas-y, viens, je t'attends.
Salut, on a voiture.
On arrive. Bisous.
Je suis trop heureuse pour toi, ma sœur.
C'est toi qui m'emmène au foot mercredi.
Rends-vie, s'il te plaît. J'ai trop envie de voir le dernier épisode.
Ouais, frère, rappelle-moi. Je crois que j'ai trouvé une bonne idée pour
ça. Où passe mon ref?
D'abord, on va à la séance de 19h30 et après, on mange.
Ma sœur, t'es où?
Papa, on peut manger devant la télé ce soir?
Présence.
Vivante Église, Marie Binet.
Le sens de la famille, de Grand Corps Malade, cette chanson qui nous rappelle nos liens familiaux dans lesquels on peut vivre peut-être des désaccords, mais en même temps, c'est là que l'on apprend la vie, c'est là que nous est donnée la vie et que dans les relations, nous nous formons aussi pour apprendre à dépasser ces divisions dont nous parlons maintenant. Je vous propose de définir la division sous différents niveaux. D'un point de vue sociologique, qu'en diriez-vous, Sébastien ?
Alors, cette idée de division sociale, on va dire au niveau sociologique, comme ce que je disais au début de l'émission, c'est un thème qui est au tout début de la sociologie. Et le terme qui correspond, c'est anomie. Et il y a deux formes d'anomie, on pourrait dire, donc qui peut être traduit par dérégulation, division, conflit et violence sociale. On pourrait dire qu'il y en a deux sortes. C'est quand les différents groupes qui constituent une société se séparent, finalement, coupent le lien avec la société dans son ensemble. Donc ça, c'est déjà une des premières formes. Et là, quelque part, on peut observer ça dans la situation actuelle où il y a des groupes de citoyens, de personnes qui se sentent de moins en moins rattachés à une société plus globale et qui est souvent un peu symbolisée par l'État. Voilà. Donc là, déjà, il y a une contestation, une rupture de ce lien. Et ensuite, la deuxième forme, c'est le conflit à l'intérieur des différents groupes sociaux. Alors, par exemple, l'école, c'en est une. Le travail, la famille, l'église. Tout ça, ce sont des grands groupes sociaux, on dit des institutions sociales. Et on voit qu'elles ont été toutes parcourues, et ce n'est pas un hasard, par des graves fractures, des graves divisions. Et donc, ça génère finalement une désaffiliation, une rupture du lien social. Et la réaction, la plupart du temps, c'est de la violence sociale. Voilà.
Alors, la philosophie reconnaît que la division est inscrite dans notre corporéité. Elle est inscrite dans la nature humaine. Alors, dans la matière de notre corps, dans notre physiologie, dans nos réactions, qu'en diriez-vous, Fabien ?
Écoutez, ça peut être intéressant de faire un détour par l'étymologie. C'est-à-dire que l'individu, en latin, c'est individuare, ce qui ne peut pas être divisé. Et donc la division, elle n'est pas physiologique, elle est vraiment toxique à tous les niveaux, au niveau social, comme Sébastien vient de le dire, mais au niveau physiologique, au niveau mental, elle est vraiment terrible et elle a des conséquences. La peur, la colère, beaucoup d'émotions qui ne sont pas toujours à leur place. La division, c'est vraiment... Si pour refaire un détour par l'étymologie, c'est diabolique, c'est ça, c'est ce qui divise, ce qui nous fait mal, ce qui nous isole, ce qui nous rend très seuls, les jeunes contre les vieux, la culpabilisation des jeunes, la division au sein des familles, au sein des associations, entre ceux qui veulent porter le masque, ceux qui ne veulent pas, ceux qui demandent le pas, ceux qui ne le demandent pas. Elle est terrible et elle a des conséquences très 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 fortes.
Alors vous disiez qu'elle est diabolique, la division, on le voit bien d'un point de vue spirituel, hein. C'est Satan qui, dès la Genèse, a créé la division par le mensonge. Donc toutes les questions autour du mensonge, bien sûr, depuis 2 ans se posent, c'est toi qui mens, non c'est toi, d'où vient le mensonge, qui le suscite, comment saura-t-on la vérité, dans combien de temps. Et du coup, il y a ce phénomène de peur qui naît aussi dans la division. On finit par se méfier de l'autre, et même au sein des couples et des familles. Alors il y a eu des mesures comme par exemple la vaccination des enfants qui a induit beaucoup de méfiance au sein des couples et des couples séparés, puisqu'il y a des moments, parce que ça a beaucoup tourné hein, dans les décrets, mais il y a des moments où il n'y avait pas besoin de l'autorisation de l'autre parent. Donc il va le faire en cachette, l'enfant est pris dedans, ça peut être... Il y a eu des tensions en termes de fratrie. Non, tu ne vas pas voir maman en EHPAD, c'est trop dangereux, mais si j'ai envie d'y aller. Et donc une division avec la peur, la culpabilisation et du coup une forme d'agressivité qui s'est développée. Avec je me sens agressée, je ne me sens pas reconnue, je me sens mis à l'écart, je me sens rejetée, je me sens... ce sont des sentiments qui ont eu du mal à s'exprimer, comme s'ils devaient être même mis dans des boîtes, et avec une somatisation, comme vous dites Fabien, d'un point de vue du corps et aussi d'un point de vue relationnel, avec une violence intraconjugale ou intrafamiliale qui s'est développée. On a beaucoup parlé de la violence faite aux femmes. Il n'y a pas que faite aux femmes, il y a aussi faite aux hommes. Et aussi vis-à-vis des enfants, avec des maltraitances qui ont été plus importantes.
Oui, tout à fait. La violence est un symptôme, finalement, quelque part, d'un dysfonctionnement. Et moi, peut-être, ce qui m'a marqué d'autant plus, c'est que cette période, finalement, où les regroupements collectifs ont été plus ou moins interdits ou très limités, finalement, ça nous a privés collectivement, on pourrait dire, de certains rites d'accompagnement. Et moi, je pense, enfin, personnellement, un de ceux qui me rendent le plus sensible, c'est le rite d'accompagnement de la fin de vie. Et notamment, il y a l'ouvrage de Marie de Hennezel qui est sorti sur, je crois, la mort volée, quelque chose comme ça. Et effectivement, déjà que la mort est un phénomène difficile pour les personnes, en plus, quelque part, on a été privé de l'accompagnement, du rituel, du collectif, même certaines personnes qui n'ont pas pu dire vraiment au revoir à leur disparu, quelque part. Et là, vraiment, anthropologiquement, pour faire le lien avec Marie, c'est quelque chose qui est assez redoutable, parce qu'on touche, quelque part, à un des fondements de l'humanité.
Anthropologiquement, le début de vie et la fin de vie ont été atteints, puisque même accoucher, des femmes ont dû accoucher sans leur conjoint à côté d'elles, avec un masque sur le visage, donc une mise en contact de leur bébé, une rencontre qui était altérée. Alors bon, ça a changé heureusement depuis. Et du coup, comme vous dites, cet accompagnement en fin de vie et au moment des obsèques, où des familles n'ont pas pu se retrouver, donc un deuil qui ne peut pas se faire. Et en fait, finalement, c'est une accumulation de violence. C'est-à-dire que malgré soi, on se retrouve face à des situations que l'on ne désire pas, face auxquelles on se sent impuissant. Et chacun va y réagir de manière totalement différente. Et ça va créer des divisions au sein des familles, parce qu'il n'y a pas l'occasion non plus de se retrouver pour en dialoguer, en fait. C'est bien d'avoir les réseaux sociaux, mais pour dialoguer sur des questions aussi fondamentales, profondes et qui touchent intrinsèquement, c'est quand même plus difficile de le faire par mail ou par WhatsApp ou Facebook, etc. Donc c'est vrai qu'il y a un éloignement et un isolement, et on en a beaucoup parlé pour les personnes âgées dans les EHPAD, mais qui ont été aussi seules chez elles, avec peu de visites, ou les célibataires, ou des jeunes étudiants enfermés dans leur chambre, loin de leur famille. Donc finalement, des situations de violence qui ont été subies, et face auxquelles tout le monde n'a pas les mêmes ressources non plus, finalement. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'inégalité, mental, psychique et contextuel, suivant le milieu social ou suivant les informations qui étaient présentes, et les ressources physiques et psychiques, en fait. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez accompagné dans vos cabinets?
Oui, bien sûr. Comme vous l'avez dit, l'inégalité, elle est à tous les niveaux. C'est un confinement vécu dans un petit appartement ou dans une maison avec un jardin, c'est pas du tout la même chose. On l'accompagne au quotidien. Pour ma part, il y a différentes formes de mots, M-A-U-X. Il y a eu les mots de la division familiale, les engueulades qui suivent... les familles qui se brisent. Il y a vraiment eu des cas. Le danger, est-ce qu'on va dîner chez les grands-parents? Est-ce qu'on cache les enfants? Il y a des périodes où ça a été très violent. Je pense au dernier Noël, il y avait vraiment une division. Alors, dans les moments qui sont vraiment les moments de synthèse, de rencontre familiale symbolique, ça a été très fort. Et vous parlez de la fragilité du début de la vie, de la fin de vie. C'est effectivement les jeunes et les personnes âgées qui ont le plus souffert. Le champ de la souffrance et de l'accompagnement est vraiment... Et vraiment continu. Voilà, ça.
Oui, rebondir peut-être sur le mot de crise aussi, qui dans plusieurs traditions philosophiques ou spirituelles, toujours englobe les deux aspects positifs et négatifs. C'est en même temps crise au sens vraiment de la rupture, de la désorganisation, et en même temps la crise aussi presque porte en elle le ferment de sa résolution et d'une transformation pour aller vers un mieux. Alors, au niveau individuel, vers un mieux-être. Au niveau familial, peut-être un niveau fonctionnement aussi plus harmonieux pour chacune des personnes. Et peut-être aussi, sur le plan social, je crois qu'il y a de nouveau des questionnements qui sont apparus, qui peuvent être un peu ferments d'optimisme, c'est-à-dire quelle place on donne à l'humain par rapport peut-être à l'économique, par rapport à la sécurité. Donc là, ça a redistribué un peu les cartes. Peut-être qu'on ne voit pas encore tout à fait les pistes que ça va développer, mais au moins ça a eu le mérite peut-être de re-questionner des choses qui semblent évidentes, mais qui ne le sont pas, quoi.
Et ça a permis justement de remodeler un peu les relations familiales. Je pense à une de mes patientes qui, justement, au moment de Noël, devait aller dans sa famille. Donc, elle y est allée et au bout du troisième jour, elle s'aperçoit qu'elle est positive. Donc, il y avait toute la famille présente, hein, les frères et sœurs, les parents, les petits-enfants. Donc, obligée de repartir. Et là, ça a créé une division au sein de la fratrie. Des parents qui ont été en colère en disant « t'aurais pas dû venir ». Et du coup, une grande déstabilisation, bien sûr, de la tristesse au moment de Noël. Et en même temps, une prise de conscience que certaines problématiques familiales n'avaient jamais été parlées depuis trop longtemps. Et ça a permis, en fait, de poser des mots sur une jalousie, sur une différence de choix de vie. Puisqu'on s'aperçoit toujours qu'on a beau être les mêmes enfants des mêmes parents, ben on fait pas les mêmes choix et on ne continue pas la transmission de la même manière. Et du coup, ça a été un moment de souffrance et en même temps un moment de réajustement. Et elle témoignait de une forme de libération. Voilà, les mots ont pu être posés. Maintenant, chacun peut prendre son chemin beaucoup plus librement. On n'est pas obligé d'être d'accord. Mais on peut peut-être réajuster le respect et l'acceptation de ces différences au sein de la famille. Donc ça passe par un moment douloureux, hein, qui est le moment d'un deuil de la famille, tel qu'on l'imaginait, tel qu'on l'a souhaité. Un moment aussi de perte, de renoncement. Et en même temps, voilà, cette forme de liberté intérieure et de liberté dans les relations qui peut se gagner. Et qui du coup va ouvrir une nouvelle perspective. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une pause. On continuera en troisième partie d'émission à parler de cette piste positive, comment retrouver de la sérénité et donner du sens. Et on va écouter Pascal Obispo qui a vraiment écrit une très belle chanson sur la solitude qui a touché quand même plus ou moins chacun de nous, même si on n'était pas enfermé dans une chambre. Il y a une forme de solitude dans le vécu individuel et intrinsèque. À qui dire qu'on est seul ?
Dis-moi, pourquoi tu pleures ? Dis-moi, qui t'a fait souffrir ? Parle-moi, vie de ton cœur. Moi aussi j'en suis passé par là, je connais ça. Quand on ne peut plus se taire, quand on ne sait plus quoi faire, à qui dire qu'on a mal, quand on ne peut plus s'enfuir, qu'on ne sait plus comment vivre, à qui dire qu'on est seul, qu'on est seul. Qu'on est seul. Dis-toi, que rien ne s'arrête, tout s'oublie. Oui, avec la vie, je sais bien. Rien quand il vous manque quelqu'un, je sais tout ça. Quand on peut plus se taire, quand on sait plus quoi faire, à qui dire qu'on a mal, quand on peut peut plus s'enfuir, qu'on sait plus comment vivre. À qui dire qu'on est seul, qu'on est seul, qu'on est seul. Dis-moi. Pourquoi tu pleures? Dis-moi. T'as fait souffrir, parle-moi, vie de ton cœur. Moi aussi j'en suis passé par là, je connais ça. Quand on peut plus se taire, quand on sait plus quoi faire. À qui dire qu'on a mal, quand on peut plus s'enfuir, qu'on sait plus comment vivre. À qui dire qu'on est seul, qu'on est seul, qu'on est seul. À qui dire qu'on est seul, à qui dire qu'on est seul.
Présence dans la vallée de la Garonne, 97.9.
Vivante Église, Marie Binet.
À qui dire qu'on est seul, de Pascal Obispo. Eh bien, voilà, nous sommes tous touchés par cette période depuis 2 ans. Alors, comment retrouver la sérénité, donner du sens et retrouver aussi un équilibre dans nos relations, dans notre vie? Qu'est-ce que vous pourriez proposer aujourd'hui de manière un peu concrète à nos auditeurs, Sébastien et Fabien ?
Concrètement, peut-être déjà mettre un peu de côté l'idéologie pour la relation, c'est-à-dire pour éviter la division, le conflit dont on parlait. Se poser la question, c'est est-ce que je préfère... avoir raison ou être heureux, voilà. C'est une question que je mets pas toujours en pratique, mais c'est une question qui se pose. Voilà, est-ce que je veux absolument avoir raison sur cette notion épidémique, voilà, ou est-ce que je préfère être accepter la division, être heureux, laisser couler. Voilà, je sais pas comment on peut essayer de faire ça. Après, au niveau vraiment physiologique, c'est des conseils de base, c'est-à-dire essayer de se poser la question de l'alimentation, par exemple. C'est vrai qu'on a vu beaucoup de dépendance au sucre dans cette période de compensation, de décompensation sur le sucre. Privilégier les fruits, les légumes, les aliments crus ou peu cuits, peu transformés. Enfin, éviter les plats industriels et les plats avec beaucoup d'additifs. Voilà, une alimentation la plus brute et la plus simple possible. Réduire les produits transformés. Cuisiner à la maison, éviter ou réduire les excitants. Le maximum de mouvement, enfin le maximum, de manière proportionnelle à chacun, à chaque âge, à chaque capacité. Du mouvement, du soleil, si on y arrive. De l'exposition au froid, ça fait beaucoup de bien aussi de s'exposer... au froid. Il y a des expériences qui ont été faites dans des maisons de retraite en Suède où, en baissant de quelques degrés la température des maisons de retraite, on ressollicitait le système immunitaire des personnes âgées pour créer un besoin de réadaptation, donc on reproduisait de la chaleur en interne. Donc pas toujours être dans le plein confort, peut-être à la limite du confort et de l'adaptation. Voilà, c'est le petit conseil qui peut s'adresser vraiment à tout le monde, à toutes les tranches d'âge, dans tous les contextes épidémiques. Voilà.
Merci Fabien. Sébastien.
Alors, ce qui me vient spontanément, c'est de nous faire confiance. Parce que ce que je remarque, en fait, c'est que Mais en tant que psychopraticien et aussi en tant qu'organisateur de formation à l'écoute, à la relation d'aide, je vois finalement que cette période-là, quelque part, a permis à un grand nombre de personnes, finalement, de peut-être de se recentrer sur l'essentiel. Et pour moi, il n'est pas question de dire ce que c'est que l'essentiel. Enfin, je peux le dire pour moi, à la rigueur. Voilà. Mais par contre, c'est l'occasion pour chacun, finalement, d'avoir, il me semble, un peu re-questionner voilà, ce qui est le fondement de ma vie. Et notamment, un des conseils, entre guillemets, c'est de se questionner sur les valeurs importantes de ma vie. Et on peut faire hein, juste des petits jeux en famille avec ça, par exemple, de dire, tiens, aujourd'hui, on va faire un partage de valeurs. Quelle est ma valeur importante pour moi? Quelle est ta valeur pour toi? On prend un petit temps, par exemple, d'échange et on essaye de voir en quoi notre relation, soit de couple, soit avec nos enfants, soit familiale, permet finalement d'incarner le plus possible au quotidien cette valeur. Parce que, comme le dit Fabien tout à l'heure, ça fait partie de ce qui me rend heureux. Voilà. Si je suis en accord avec ma valeur et que je permets à l'autre d'être en accord avec sa valeur, ça rend quelque chose de beau et de positif, par exemple.
Les couples ont vécu ce temps, justement, à devoir se re-questionner sur ses valeurs. Est-ce qu'on partage les mêmes valeurs ou pas? Est-ce qu'on a envie de continuer le chemin ensemble? Donc, on constate aujourd'hui que peu de couples se sont séparés et l'INED, dans une enquête, présuppose que les séparations devraient venir. Alors, je vais être positive. Moi, en tant que conseillère conjugale, je dirais qu'il est toujours temps de se réconcilier. Alors, se réconcilier, c'est une démarche qui peut être longue, compliquée. Le pardon n'est pas toujours facile. En tout cas, c'est accepter déjà les désaccords. On n'est pas obligé d'être d'accord pour toujours s'entendre, mais en tout cas, c'est de se dire, ben, voilà, on n'est pas d'accord, on se respecte et on va continuer quand même le chemin parce qu'on a des valeurs communes, on a une direction commune. Donc, c'est de prendre le temps de se re-questionner sur le projet de couple et le projet de famille. De se dire, est-ce qu'on a privilégié que trop la famille ou que trop le couple ou que trop nous individuellement? Ça a demandé de sortir un peu d'une forme d'égocentrisme, cette période aussi. C'est de se rendre compte qu'il y avait des personnes autour de nous et dont on ne tenait pas assez compte. Et finalement, en couple, c'est de se dire, est-ce que je vais assez parler le langage de l'autre? Est-ce que je me suis intéressée à l'autre? Et une des façons de sortir très positivement de ce climat un peu de division, c'est de s'intéresser à l'autre, de mieux le connaître, de mieux se faire connaître et surtout de se dire, comment pour réintroduire de la joie, je peux chercher à faire plaisir à l'autre. Et je ne vais pas faire plaisir à l'autre que pour me faire plaisir. Je vais faire plaisir à l'autre pour lui faire plaisir. Et ce don de soi, c'est une manière privilégiée de redonner de l'harmonie, de redonner de la légèreté, de la souplesse. Et il me semble que c'est vraiment un chemin aujourd'hui qui peut aider les couples et les familles à retrouver un peu plus d'harmonie, de sérénité dans ce « je fais attention à l'autre ».
Oui, pour aller dans le sens de ce que vient de dire Marie, moi, deux conseils, c'est que peut-être les personnes osent finalement s'intéresser un petit peu, par exemple, à la communication non violente, parce que c'est un moyen, notamment assez concret, pour apprendre à s'exprimer, donc à partager quelque chose qui est important pour moi, et aussi à écouter l'autre dans ce qui est important pour l'autre, justement. Et finalement, donc pour moi, quelque part, ça rejoint aimer. Qu'est-ce que ça veut dire aimer? Et il ne suffit pas de dire à l'autre que je l'aime. Il faut aussi, justement, mettre en place des choses un peu concrètes, et notamment dans la communication. Et c'est le lien avec ce que disait Fabien tout à l'heure. Est-ce que je préfère avoir raison ou est-ce que je préfère être heureux? Et dans la communication non violente, par exemple, la réponse est claire, c'est que c'est le bonheur plus que l'idéologie d'avoir raison qui est importante pour l'humain.
Alors, je vais terminer sur une touche spirituelle. Il y a aussi une démarche qui aide beaucoup dans cette période, c'est d'arriver à se mettre un peu au désert, c'est-à-dire de prendre du recul pour discerner pour soi et peut-être discerner aussi en couple. Et donc, c'est vraiment, j'encourage à prendre du temps pour soi. un temps de recul pour se mettre peut-être à l'écart, se mettre sous le regard de Dieu, être en prière et le faire seul et en couple, voire en famille. Les sessions ont continué à être proposées pendant ces 2 ans et il y en a à nouveau qui sont remises en place dans les monastères ou dans les mouvements de l'Église. Et je pense que c'est une manière aussi de pallier à la tristesse, à la peur, à tout ce qui a occasionné des mésententes, des conflits, se reposer. Voilà, il y a du repos physique, du repos psychologique et un repos relationnel aussi pour redonner vraiment de la légèreté à ces relations. Et puis, si vous pouvez remettre un peu d'humour, allez-y. Fabien, est-ce que vous voudriez terminer par un mot ?
Oui, il y a une petite phrase qui me vient à l'esprit là, en écho à ce que vous venez de dire l'un et l'autre, c'est sur la question de l'autre. Voilà, c'est une phrase du philosophe Paul Ricoeur qui dit « Le chemin vers soi passe par l'autre ». Voilà, je pourrais conclure sur ces quelques mots.
Merci. Un mot pour terminer, Sébastien ?
Mais je trouve que ta proposition, Marie, est un peu paradoxale et elle me plaît beaucoup, justement. C'est en temps de distanciation sociale, c'est de remettre un peu, finalement, de distanciation, mais peut-être de moi à moi, pour retrouver peut-être un chemin d'intériorité aussi.
Tout à fait, qui aide à aller vers l'autre et à recevoir l'autre. Nous vous remercions beaucoup, chers auditeurs, de votre attention et nous serons ravis avec Sébastien de vous retrouver au mois de mars. Nous vous souhaitons une excellente journée. Au revoir.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.